Bonjour et bienvenue dans le podcast scientifique de Télécom Paris, la première grande école d'ingénieurs du numérique. Je reçois Tiffaine Viard, maîtresse de conférence numérique, organisation et société à Télécom Paris, pour parler éthique de l'intelligence artificielle. Ce sujet du contrôle de l'IA est beaucoup questionné ces derniers temps. L'IA Act devrait voir le jour cette année, et de ChatGPT à l'utilisation des algorithmes pour sécuriser les prochains JO, les sujets d'éthique émergent de plus en plus dans le débat. Tiffaine, tu viens de terminer un travail sur les chartes éthiques des acteurs publics et privés pour analyser leur vision de l'éthique de l'IA et leur définition de l'IA de confiance. Alors pourquoi avoir choisi ce sujet ?
Avec Mélanie Gornet, qui est doctorante à Télécom Paris aussi, on a mené un travail d'analyse. Donc notre objectif initial, c'était de dire il y a énormément d'acteurs, donc privés, institutionnels, académiques aussi, ou même des collectifs de citoyens ou des ONG, qui se positionnent, donc qui publient ce qu'on appelle des chartes ou des manifestes, et autour de l'éthique de l'IA. Et on imagine en général, quand on entend manifeste, on imagine des documents assez courts, qui sont non contractuels et qui sont souvent un petit peu vagues. Et donc justement, on voulait à la fois vérifier à quel point sur le thème de l'IA éthique c'était aussi vrai, et en même temps se dire en creux, il y a énormément de documents comme ça. Donc dans notre analyse, on en a étudié en profondeur 75, mais on en a collecté beaucoup plus, donc plusieurs centaines, et de dire, mais qu'est-ce que ça nous dit en creux, toutes ces personnes qui, indépendamment ou non, se positionnent sur ce sujet, quels mots ils et elles utilisent, quels concepts sont mobilisés, et qu'est-ce que ça dit en creux du champ de l'éthique de l'intelligence artificielle. Voilà.
Alors, pour que ça soit un peu plus concret, est-ce que tu peux nous décrire, enfin nous dire, quels sont ces acteurs que vous avez étudiés, publics et privés ?
De mémoire, on a environ entre 25 et 30% d'acteurs privés, donc vraiment industriels, qu'on sépare un peu en deux, donc à la fois les industriels de l'intelligence artificielle, donc type Google, DeepMind, Microsoft, IBM, etc., et des industriels de d'autres domaines qui utilisent de l'IA, donc par exemple dans le domaine bancaire pour de la maintenance prédictive, etc., mais qui ont des cas d'application plus précis. Et en termes institutionnels, c'est plutôt des documents qui sont faits soit au niveau national. Donc, par exemple, le Conseil d'État a publié un rapport sur l'IA de confiance pour la fonction publique il y a quelques mois, ou alors au niveau supranational, donc typiquement l'Union européenne, qui travaille en ce moment donc à la suite du RGPD, du Règlement général pour la protection des données, qui travaille sur un document législatif qui encadre l'utilisation et les définitions de l'intelligence artificielle, donc ce qui s'appelle le AI Act, et dont un premier brouillon est sorti l'an dernier, un deuxième brouillon est sorti un peu plus récemment et qui est encore en discussion très très active. Et donc en parallèle de ça, donc il y a effectivement ces acteurs privés, acteurs institutionnels. Ce qui caractérise un petit peu notre corpus, c'est aussi le fait qu'on ait des documents d'ONG, typiquement, donc qui, en général, sont très au point sur les questions de droits fondamentaux posées par l'utilisation des intelligences artificielles et éventuellement moins sur les aspects techniques, par exemple. Et même des collectifs de citoyens qui ne sont liés que par leur intérêt pour le sujet, quoi. Et qui, du coup, ont publié un manifeste en tant que nous, citoyens, on pense qu'il faudrait aller vers une IA décoloniale, par exemple, ou une IA politiquement plus, comme ci ou comme ça.
Oui, donc on voit que les approches sont diverses, hein, mais on voit aussi que tous ces acteurs se sont aujourd'hui dotés de chartes. On a vraiment l'impression que les problématiques de régulation prennent de l'ampleur ces derniers mois, même si l'essor de l'IA et donc l'intérêt pour les sujets d'éthique ne datent pas d'hier. Alors pour nous aider à mettre un peu tout ça en perspective, est-ce que tu peux, Tiffaine, nous rappeler les évolutions marquantes et l'actualité de ce sujet ?
Effectivement, les méthodes d'intelligence artificielle ont suscité de plus en plus d'attention ces dernières années, notamment avec des avancées techniques et mathématiques et informatiques, donc ce qu'on regroupe souvent sous le deep learning, quoi. Donc à la fois la puissance de calcul, la disponibilité des données et les méthodes d'optimisation mathématique qui permettent de calculer sur des gros volumes de données en un temps raisonnable, quoi. Sachant que les premières avancées techniques sont pas si récentes, en fait, datent plutôt des années 90. Mais il y a vraiment, depuis 2010 et après, eu vraiment une explosion des modèles, des applications et des usages autour de l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, conjointement à ça, c'est posé la question de très bien comment est-ce qu'on veut réguler ça, quelles limites on veut mettre, qu'est-ce qu'on désire en tant que citoyen, que législateur. Est-ce qu'on veut considérer qu'il y a des usages qui sont inacceptables? Est-ce qu'on veut encadrer certains usages? Dire non, la technique s'encadrera toute seule. Enfin, il y a tout un champ de possibles, de façon un peu similaire à ce qui s'est passé pour les réseaux sociaux. Donc avec un côté, une forme d'innovation technologique qui change énormément d'usages. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire, quoi, à partir de ça? Et donc, notamment au niveau de l'Union européenne, dans la foulée du succès du Règlement général pour la protection des données, a été décidé de faire un texte un peu cadre qui régule l'intelligence artificielle au sens large, donc avec toutes les difficultés que ça peut avoir de définir ce qu'est l'intelligence artificielle et ce que n'est pas l'intelligence artificielle. Et donc, c'est ce document-là qui est actuellement en discussion animé sur pour définir les usages acceptables, les usages qu'on veut interdire, quel que soit le contexte, ce qu'on voudrait encadrer, etc. Après, il y a énormément d'applications et qui suffit des questions de régulation. Donc notamment donc les exemples qui ont beaucoup fait parler autour de ChatGPT, de la surveillance vidéo et de la reconnaissance faciale au moment des Jeux Olympiques, entre autres, avec aussi beaucoup de cas d'utilisation autour des véhicules autonomes ou autour de la robotique, et au final aussi sur des sujets qui ont l'air moins saillants mais qui sont aussi importants, sur les outils automatisés pour trier des candidatures, trier des demandes d'allocation ou de prêt, qui au final recourent aussi au sens large à des intelligences artificielles et sont peut-être moins flamboyants ou moins apparents, mais sont tout aussi importants et ont des conséquences sociales tout aussi réelles.
Alors maintenant, si tu es d'accord, on va revenir à ton travail un peu dans le détail et à ce que vous avez appris de l'analyse des chartes éthiques. Donc, est-ce que tu peux nous résumer ça, Tiffaine?
Déjà, on a confirmé un peu ce que nos a priori de souvent ces documents-là sont plutôt courts, non contractuels, un petit peu vagues. Donc la plupart d'entre eux, 80% d'entre eux de mémoire font moins de pages, quoi. Donc avec une distribution très déséquilibrée, parce qu'on en a beaucoup qui font moins de 2 pages, mais on en a quelques-uns, notamment un publié par la Chambre des Lords au Royaume-Uni qui fait plusieurs centaines de pages. Et donc il y a vraiment une espèce de déséquilibre. Et ils sont effectivement en général très vagues et donc ils utilisent un peu tous le même vocabulaire. Donc il y a des grands thèmes qui reviennent assez souvent, donc notamment d'équité algorithmique, donc ce qui s'appelle la fairness en anglais, de questions sur la vie privée, de respect des droits fondamentaux, entre autres. Et à la fois, on se rend compte que... en fait, on se rend compte de plusieurs choses sur ces thèmes-là. Déjà, ils sont tous présents, mais à des degrés divers et c'est difficile de... En fait, tout le monde utilise un petit peu le même vocabulaire pour pas forcément dire exactement la même chose, notamment parce qu'il y a beaucoup de circulation d'informations. Donc, par exemple, le terme d'explicabilité, donc la capacité à expliquer un algorithme, est un terme qui est très, très informatique à la base, donc qui vient vraiment du monde des entreprises et des labos de recherche, et qui, petit à petit, a été repris institutionnellement, a été du coup repris par le public, et qui du coup prend maintenant le devant de la scène. Ce qui fait que, aujourd'hui, quand on parle d'explication d'un algorithme d'intelligence artificielle, on pense tout de suite au terme d'explicabilité, avec pas forcément les mêmes implications. Donc un ou une juriste ou un ou une députée n'a pas forcément les mêmes attentes en pensant explicabilité que une chercheuse en informatique, par exemple, qui a une idée très claire de ce que ça veut dire en termes de méthode mathématique. Donc déjà il y a ce côté polysémique qui est très très intéressant. Et au-delà de ça, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des partis pris qui étaient assez récurrents, donc des sujets qui sont quasi systématiquement oubliés et absents de ces documents. Donc juste pour donner quelques exemples, il y a typiquement le thème du travail est beaucoup abordé dans ces chartes-là. Donc l'intelligence artificielle va changer le monde du travail, etc. Mais avec vraiment une approche de comment l'intelligence artificielle a le potentiel de changer le monde du travail dans les pays plutôt européens ou plutôt premier monde, quoi. Et donc comment est-ce que ça bouscule des choses existantes? mais quasi jamais sur comment est-ce que ça renforce des dynamiques de division injuste du travail qui existaient déjà dans le monde avant. Donc notamment avec le fait de sous-traiter dans des pays du sud global, le fait de bénéficier du travail ou de données qui ont été publiées par d'autres personnes qui en fait n'en bénéficient pas. Donc ce sont aussi des questions abordées notamment par Antonio Casilla à Télécom. Et donc, ce sujet-là est un sujet tristement absent. Il y a au final un autre sujet qui est assez souvent absent, c'est celui de l'écologie ou de l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, qui, quand il est abordé, l'est de manière encore plus vague que le reste. Aussi, parce qu'il y a, pour l'instant, même s'il y a des recherches menées, il y a encore assez peu d'éléments techniques très concrets à donner, et donc qui sont assez peu repris, au-delà d'un message un petit peu vague de « oui, l'environnement est important », point. Et notamment avec très peu de discussions sur voilà, dans tel contexte social et ou environnemental, on gagnerait à ne pas utiliser d'intelligence artificielle, par exemple, ou à la restreindre très sévèrement. Ça, c'est des thèmes qui sont très très peu abordés. Et enfin, un dernier gros résultat, c'est que auquel on s'attendait aussi un petit peu, c'est que tous ces thèmes sont très peu opérationnalisables et opérationnalisés. C'est-à-dire que on a une espèce de liste de desiderata. Donc, l'IA doit être au bénéfice de la société. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon, bah, c'est difficile d'être contre ça. Doit être efficace, doit être soutenable. Sans vraiment de traduction en choses concrètes qu'on pourrait faire, dire, bah, OK, une IA soutenable, ça veut dire, au hasard, hein, mettons, réguler le bilan carbone des serveurs, donc pas plus de tant de kilos de CO2 pour un modèle, ou le mettre en regard du nombre de personnes à qui ça bénéficie. Et tout ça, c'est des questions qui sont difficiles et qui sont peu tranchées, en fait. Ouais. Et donc, notamment, le fait de ne pas les trancher, ça mène aussi à des choses qui sont en train d'être étudiées, mais qui commencent seulement à être étudiées sur des conflits entre valeurs. Donc, de dire, on veut plus de transparence. D'accord, très bien. On veut aussi protéger la vie privée des gens. OK. Mais ces deux besoins-là se contredisent un petit peu l'un l'autre. Donc, comment est-ce qu'on veut arbitrer, par exemple? Et donc, c'est des questions super intéressantes, mais complexes.
Ouais, pour caricaturer, on pourrait dire qu'il y a presque autant de dimensions de l'IA que d'acteurs, ou en tout cas qu'il y a beaucoup de différences notables de perception. Comment peut-on du coup se situer par rapport à ces notions de transparence, d'équité et d'explicabilité? Et est-ce que vous avez, vous, en tant que chercheur, votre propre définition de l'IA de confiance?
Un résultat un peu de notre travail, ou en tout cas une conclusion de notre travail, ça a été de dire que... c'est difficile d'avoir une définition très claire de ce que c'est que l'IA de confiance. Déjà parce que c'est difficile d'avoir une définition très claire de ce que c'est l'intelligence artificielle, tout court. Donc en rajoutant des mots, ça devient que plus compliqué. Mais en même temps, du coup, ça appuie d'autant plus sur l'importance d'avoir une diversité d'acteurs et d'actrices et de personnes impliquées qui vont pouvoir en parler, donner leur avis et pouvoir peser dans les débats. Donc... bien sûr, des chercheurs, des chercheuses, des personnes dans les entreprises, dans les labos privés, donc qui connaissent les enjeux de façon très très pointue, quoi. Mais aussi des personnes donc dans les ONG qui connaissent beaucoup plus le rapport aux droits fondamentaux, des personnes, idéalement même des personnes qui contribuent à nourrir ces bases de données, à étiqueter ces bases de données qui sont en général très souvent exclues des bénéfices de systèmes d'intelligence artificielle ensuite, législateurs, des juristes, etc. Et donc, du coup, je pense qu'il y a vraiment, à partir de tous ces regards croisés et de tous les dissensus et les consensus que ça implique, et de toute la complexité que ça apporte, quoi, qu'on pourra petit à petit faire émerger quelque chose qui, au lieu de renforcer les dynamiques de pouvoir existantes, soit vraiment en mesure de les rééquilibrer, ce qui me paraît souhaitable.
Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cette approche sociologique des sujets de régulation de l'intelligence artificielle vous aura intéressé. Rendez-vous dans de prochains épisodes pour approfondir avec les chercheurs de Télécom Paris ces questions d'éthique, d'explicabilité et de confiance dans l'IA.